Journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est le principal gaz à effet de serre. Les émissions mondiales de CO2 rebondissent fortement en 2021, plus 5%. La crise du Covid n'aura donc été qu'une parenthèse, une petite pause pour la planète. Et c'est de nouveau un tableau sombre que dressent des scientifiques en pleine COP26. Le détail dès le début de ce journal. Un bico comme ça, ça ne nage pas. La phrase avait été prononcée par un policier en pleine interpellation au printemps en 2020 en Seine-Saint-Denis. Le fonctionnaire en cause est jugé aujourd'hui à Bobigny pour injure raciste. Précision à suivre. Dans ce journal aussi, la crainte de tensions redoublées entre l'Algérie et le Maroc. Et rencontre dans quelques instants avec un créateur génial de 21 ans. Ce jeune homme paraplégique conçoit des objets pour faciliter la vie des personnes handicapées.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, Mohamed Mbougar Sarr, romancier, prix Goncourt 2021 pour la plus secrète mémoire des hommes. Coédition Philippe Ray et Jim San. Et à chaque jour, sa nouvelle promesse à la COP26.
Ce matin, 190 pays s'engagent à Glasgow à sortir progressivement du charbon à partir de 2030. Parmi eux, de gros consommateurs comme la Chine ou la Pologne. Et il y a urgence, car on apprend qu'après la nette chute de l'an dernier, les émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre, repartent de plus belle cette année. La crise Covid et ses confinements n'ont donc été finalement qu'un petit répit pour le climat. Il paraît déjà bien loin le temps où l'on promettait un monde d'après plus sobre. Les scientifiques du Global Carbon Project estiment que ces émissions de CO2 augmenteront de près de 5% sur l'ensemble de 2021, à deux doigts de rattraper le record absolu de 2019. Dans ce tableau très noir, donc, Célia Kiré, la tendance est un peu moins mauvaise pour la France.
La France s'en sort plutôt bien. Les émissions de CO2 avaient diminué de 9% à cause du confinement entre 2019 et 2020. Cette année, elles sont remontées plus 8%, mais elle reste moins élevée qu'avant la crise du Covid. Philippe Sier est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Finalement, en France, le Covid nous aide en quelque sorte, parce qu'il y a bien eu un rebond en 2021, mais le rebond n'a pas été aussi fort que la baisse des émissions de 2020. Le Covid va nous remettre dans l'objectif au moins pour les trois prochaines années.
Mais en Europe, les émissions de CO2 ont grimpé de 7% en un an, une forme de rattrapage après la crise. Et les pays de l'Union qui importent des produits d'Asie sont également responsables en partie des fortes émissions de carbone constatées en Chine, plus 4%, ou en Inde, où elles ont bondi de 12%. Ici, pas de monde d'après, on assiste plutôt à un retour en force du carbone pour Philippe Sier.
D'abord, c'est des pays qui ont une forte croissance économique. Ensuite, il y a une très forte demande de produits manufacturés qui fait appel beaucoup à l'industrie en Chine et notamment en Inde. La production d'électricité là-bas se fait principalement au charbon et forcément, les émissions ont augmenté.
Or, les chercheurs qui réalisent cet atlas mondial du CO2 ne sont pas optimistes pour 2022. Il y aura bien une nouvelle hausse des émissions si le charbon ne diminue pas ou si le transport aérien revient à son niveau d'avant la pandémie.
Célia Kiré, oui, c'est l'un des enjeux, le bilan carbone de nos voyages en avion. Ils reprennent progressivement, mais sensiblement cet automne après la pause Covid, avec à la clé une hausse à venir des prix des billets, conséquence de l'augmentation des cours du pétrole. Le baril dépasse les $80 depuis octobre. Alors l'Association du transport aérien international prévient, cela va finir par se répercuter sur les tarifs passagers. Façon aussi pour les compagnies Rémy Brancato de renflouer des caisses bien vides.
Avec un pétrole aussi cher, les compagnies aériennes n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les prix des billets. C'est ce qu'assure l'Association du transport aérien international qui les représente et son vice-président Sébastien Micoche.
Les coûts du pétrole représentent environ entre 25 et 30% de tous les coûts des compagnies aériennes. Lorsque le prix du baril de pétrole augmente, les compagnies aériennes qui fonctionnent avec une marge nette d'environ 1% ne peuvent pas absorber ce coût, mais le reportent sur les prix des billets.
Impossible, dit-il, de prévoir le montant de cette hausse, mais pour Didier Arino du cabinet de conseil ProTourisme, elle restera modérée.
La part du kérosène dans le prix du billet a tendance à diminuer. Les compagnies aériennes se sont débarrassées des avions les plus gourmands en consommation de kérosène. On peut s'attendre à une augmentation entre 5 et 10% au maximum des billets.
Mais pour lui, le prix du kérosène a bon dos et le vrai problème, ce sont surtout les $200 milliards de pertes cumulées par les compagnies compagnies au niveau mondial avec le Covid.
Les compagnies aériennes nous préparent surtout à ce que les prix augmentent car elles souhaitent rétablir leurs marges impactées par la pandémie.
Pour l'instant, le trafic aérien mondial est 50% moins élevé qu'il y a 2 ans et si elles souhaitent maintenir la reprise, selon lui, les compagnies devront forcément modérer la hausse des prix.
Les explications de Rémi Brancato pour Inter. Les avions qui n'ont pas de problème à traverser la Manche, contrairement à certains bateaux de pêcheurs français bloqués à quai faute de licence accordée par le Royaume-Uni. Journée peut-être décisive pour résoudre la crise de la pêche entre les deux pays. Le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost, est reçu à Paris par Clément Beaune, le monsieur Europe du gouvernement français. La France qui a repoussé pour l'instant ses menaces de sanctions pour laisser une chance à ces négociations. Ambiance beaucoup plus détendue et même très conviviale hier soir à Beaune, en Côte d'Or, où Angela Merkel était reçue par Emmanuel Macron pour sa dernière visite officielle en France avant de quitter le pouvoir. Œuf meurette, bœuf charolais et nuit Saint-Georges premier cru au menu. Et un hommage très appuyé du président français à la chancelière allemande. « Tu as contribué à garder l'Europe unie. Merci de cette indulgence à mon égard », lui a lancé le chef de l'État en lui remettant les insignes de grand croix de la Légion d'honneur. Des policiers devant le tribunal aujourd'hui pour des propos racistes qui ont beaucoup choqué l'an dernier. C'était le 26 avril 2020 à l'île Saint-Denis, près de Paris. Des agents viennent d'interpeller un jeune Égyptien qui s'est jeté dans la Seine après une course-poursuite. Un riverain filme l'arrestation. Sur la vidéo, on entend les fonctionnaires qualifier le suspect de bico, puis des cris de douleur dans le fourgon. L'un de ces policiers est jugé aujourd'hui à Bobigny pour injure à caractère raciste. 6 autres sont cités à comparaître par les parties civiles. Retour sur les faits avec Emmanuel Leclerc.
La bande sonore de la vidéo filmée par un riverain mise en ligne par le journaliste Taha Bouaf ne laisse aucun doute sur ce que 2 policiers ont dit cette nuit-là sur les bords de Seine. Ils venaient d'arrêter un suspect cambrioleur qui avait plongé pour leur échapper. Un bico comme ça, ça ne nage pas. Oui, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. 1 minute plus tard, le suspect est embarqué dans une camionnette. Là, on entend des hurlements, des bruits sourds. Samir affirme qu'on l'a frappé au sol. Les policiers jurent qu'ils ne faisaient que ranger l'intérieur du fourgon, qu'ils avaient mis le suspect au sol parce qu'il était plein de vases, selon leur déposition. D'après nos informations, la partie civile devrait mettre en avant une bande-son bien plus longue et bien plus précise encore que la première ce matin à l'audience. Cette nuit-là, les policiers avaient affirmé enfin s'être jetés à l'eau, eux aussi pour sauver leur suspect de la noyade, et donc qu'ils avaient risqué leur vie. Une version qui sera contestée ce matin devant le tribunal de Bobigny. Pour les avocats de la victime, les agents n'auraient fait que mettre les pieds dans la vase pour attraper le jeune homme qui avait nagé vers le bord.
10 000 cas de Covid recensés hier en France, même s'il y a un effet rattrapage de jours fériés. C'est clair, maintenant l'épidémie regagne du terrain un peu partout. Le masque redeviendra obligatoire à l'école dans 39 départements supplémentaires dès lundi. On a la liste précise ce matin, cela concerne notamment les Pays de Loire, l'Alsace, une partie de la Bretagne. Carte complète à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h38, jusqu'où iront, Alexis, les tensions entre l'Algérie et le Maroc?
Nouvelle crainte ce matin d'une escalade après la mort de 3 ressortissants algériens dans un bombardement sur une route du Sahara occidental. Un bombardement que les autorités algériennes attribuent au Maroc, dans ce territoire disputé entre Rabat et des indépendantistes soutenus par Alger. Tout cela intervient dans un contexte déjà très tendu entre les deux pays qui n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis cet été. Il y a maintenant un vrai risque que ça dégénère pour Hasni Abidi, directeur du Centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen.
On n'est pas à l'abri d'une escalade et même d'un accrochage. D'abord, on est dans une zone considérée comme une zone militaire de haute tension. Et évidemment, le fait que la présidence de la République algérienne elle-même qui annonce cette nouvelle, qui a été démentie, mais qui a circulé il y a plusieurs jours, vraiment le pouvoir algérien veut absolument s'emparer de cette nouvelle. Je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui de contenir cette tension pour qu'elle n'atteigne pas un niveau ou un point de non-retour. Et c'est pourquoi une enquête, à mon avis, est très importante parce qu'elle va établir d'abord les responsabilités, mais aussi de gagner du temps pour contenir cette crise qui risque, bien sûr, de produire des conséquences désastreuses dans cette région.
Hasni Abidi du Centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen. On y revient aussi avec Anthony Bélanger tout à l'heure à 8h15. La Méditerranée, où le risque de tsunami est bien réel, même s'il est évidemment bien plus faible que dans d'autres océans et mers du globe. La côte méditerranéenne est-elle suffisamment préparée à l'arrivée éventuelle d'un tsunami? C'est ce qu'on va évaluer aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture organise un exercice grandeur nature pour tester la réactivité des secours, mais aussi des industriels et de la population. Le tsunami sera bien sûr fictif, mais des sirènes d'alerte vont retentir dans plusieurs communes du littoral.
Et puis rencontre ce matin avec un inventeur, un créateur d'à peine 20 ans.
Un touche-à-tout qui veut rendre la vie des autres plus facile. Je vous présente Jason Chemama. Ce jeune homme de Courbevoie, près de Paris, fabrique des objets pour faciliter le quotidien des personnes paraplégiques comme lui. Il a terminé cette semaine parmi les finalistes du trophée des entrepreneurs H-Up. Jason souffre d'une incapacité motrice cérébrale depuis la naissance. Pour communiquer, il tape ses textes avec son nez sur son portable, puis utilise un lecteur vocal. Ce qui ne l'empêche pas, vous allez l'entendre, de concevoir tout un tas d'innovations. C'est le reportage de Julien Morcelli.
Dans sa chambre, Jason et sa mère, Nicole, préparent ensemble les commandes du jour.
Ne trouvant pas de support smartphone pour mon fauteuil roulant, j'ai développé des supports en différentes tailles.
Alors c'est un bras articulé, positionné sur son fauteuil. Du coup, son téléphone est devant son visage et il peut écrire directement avec son nez sur son téléphone.
Grâce à cette invention, Jason n'a plus besoin que sa mère lui tienne le téléphone devant le visage.
Il est autonome, quoi. Il existait des choses qui n'étaient pas réglables tout à fait dans la position ou dans la taille que voulait Jason et ça coûte beaucoup plus cher, en effet.
Son produit est vendu une centaine d'euros, 10 fois moins cher que les bras métalliques. L'idée a séduit les hôpitaux parisiens qui s'en servent pour installer des boutons d'appel d'urgence aux patients paralysés.
Voilà, la valise de démo, elle est prête aussi pour le rendez-vous. Il aime aider les autres, quoi. Il veut pas rester dans son coin, attendre que ça se passe. Il est innovateur, créateur, il a toujours des idées.
L'entreprise de Jason lui a aussi permis de passer plus de temps avec sa mère.
Parce qu'avant, Jason était accueilli dans une école spécialisée. Et maintenant, c'est vrai qu'il est à 100% là. C'est un travail à plein temps.
Jason se concentre maintenant sur sa nouvelle invention, une gourde à destination des personnes paraplégiques. Il espère trouver un sponsor pour la distribuer aux athlètes des prochains Jeux paralympiques de Paris.
Le mot de la fin, croyez en vous et soyez persévérants.
Le portrait de Jason, signé Julien Morcelli ce matin pour Inter.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à